Nous allons étudier ensemble l'Église. Alors, je ne prétends pas ici, disons, donner une étude tout à fait exhaustive de l'affaire, de la question, l'Église étant un domaine excessivement vaste. Mais j'aimerais qu'ensemble, quelques instants, de manière dynamique, nous allions à la découverte de trésors nouveaux dans une affaire très ancienne. Depuis plusieurs années, j'étudie l'Église et ces temps derniers, certaines nouveautés me sont apparues. Et j'aimerais vous en faire part, en quelque sorte. J'aimerais partager dans la communion ce que le Seigneur m'a révélé de son Église dans le Nouveau Testament et jusque même dans l'Ancien Testament. Alors j'ai appris que Ralph Challis était de passage parmi vous, qu'il vous a aussi parlé de l'Église, et j'espère que ce ne sera pas une vaine redite. Il y a tant de choses à dire sur l'Église que j'espère que tout ce qui sera dit viendra en complément de ce que notre frère Challis vous a enseigné il y a récemment. Il y a peu de temps. Lisons donc quelques textes pour commencer. En Éphésiens 5, nous pourrions lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. L'apôtre est Christ qui suit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est le Christ qui, le premier, a prononcé le mot « Église » dans l'Évangile. Qui se souvient du texte qui le précise? Qui se souvient des circonstances dans lesquelles ce mot « Église » a été prononcé par le Christ lui-même? Je bâtirai mon Église en Matthieu 16, 18. Tout à coup, le terme Église apparaît dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste n'a pas parlé de l'Église. Les prophètes n'ont pas parlé de l'Église. C'est le Christ qui a tout à coup prononcé ce nom. Comme une nouveauté. La Bible dit que l'Église est un mystère de tout temps caché en Dieu. Un mystère de tout temps caché en Dieu, ceci est écrit en Éphésiens 3, 6 et la suite. C'est donc d'un mystère dont nous allons parler. Du mystère de l'Église, d'un mystère qui a été révélé pour commencer par Christ lui-même. Puis ce même terme Église réapparaît, toujours en Matthieu, au chapitre 18, toujours dans la bouche du Christ. Alors il serait bon que nous étudions ce qu'est l'Église, ce qu'elle signifie, pourquoi le Christ a-t-il fait référence à un mot Je vais vous faire sursauter, païen. Le mot église était un mot païen. Et du même coup, nous allons jeter un œil sur l'arrière-plan grec de ce terme. Le mot « église » vient du terme grec « ecclésia ». Le terme « ecclésia » en grec vient de deux termes. D'un premier terme, « ek » en grec qui signifie « quelqu'un sait-il ? » « hors de ». Hors de. Et kaléo, qui signifie appeler. Appeler. Hein, en grec, kaléo, j'appelle, n'est-ce pas ? Sinon, l'infinitif, c'est kaléen en grec. Donc, le terme ecclésia vient de deux termes en grec, donc les termes ek, hors de, kaléo, appeler, j'appelle. Et l'Église est donc faite de ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors de quoi ? Nous allons le comprendre en continuant d'étudier ce terme au niveau de son sens original dans la Grèce antique. Nous lisons par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19 et au verset 39, le texte qui suit, ce texte qui fait suite à une effervescence qui s'était produite dans la ville d'Éphèse à cause de la prédication de l'apôtre Paul et de ses équipiers, cette effervescence avait fait que les apôtres avaient été quelque peu malmenés, etc. Alors, quelqu'un donc est intervenu disant ce qui suit, « Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. » Or, ici, celui qui parle est un Éphésien, un païen qui n'avait rien à faire avec l'équipe de l'apôtre Paul, mais qui simplement voulait en appeler à l'assemblée légale pour traiter du problème de ces hommes étrangers qui étaient venus secouer de leur message la ville d'Éphèse. Il y avait donc à Éphèse une ecclésia légale. Je cite ce terme parce que le mot ici au niveau du grec, c'est le terme ecclésia. Alors cette ecclésia était faite de païens, était faite de grecs non chrétiens, lesquels se réunissaient pour administrer leur ville, pour la pacifier, pour y établir l'ordre. L'Ecclésia était donc, dans la Grèce antique, une assemblée de citoyens grecs, lesquels n'avaient pas perdu leurs droits civiques. Ils devaient être en pleine possession de leurs droits civiques. Ces citoyens qui formaient l'Ecclésia, eh bien, avaient autorité sur la ville. Ils pouvaient prendre des décisions, des orientations pour le bien-être de la ville. Ils devaient en quelque sorte aider la cité à s'organiser et à vivre de la meilleure manière, de la meilleure façon. Tout ceci jette un éclairage nouveau sur le sens à donner à l'Ecclésia à partir du Nouveau Testament. Les réunions de ces Ecclésias dans les cités grecques commençaient généralement par la prière, parce qu'on était païen. Païen ne veut pas dire ne croire en rien. C'est croire en des divinités tout à fait étrangères. Les réunions de ces ecclésias commençaient par la prière et par le sacrifice. Et les deux règles d'or qui présidaient à ces ecclésias étaient d'un côté D'une part, plutôt l'égalité entre tous les citoyens qui formaient l'Ecclésia. Ils étaient absolument égaux. C'était l'une des règles. De nos jours, on aurait pu peut-être voir, lors de ces ecclésias, de grands calicots, en quelque sorte, de grandes affiches, hein, dans les congrès de ces ecclésias, égalité d'un côté et liberté de l'autre. Hein, en grec, isonomia et eleutheria. Égalité et liberté, telles étaient en quelque sorte les deux règles d'or qui devaient toujours présider aux rencontres de ces ecclésias païennes. L'esclave, dans la Grèce antique, n'y avait pas accès. Très important cela. L'esclave, c'est-à-dire l'homme qui n'était pas libre, ne pouvait pas assister aux réunions de ces ecclésias. Il était tenu à l'écart, mais l'esclave affranchi, devenu citoyen, pouvait y assister. L'esclave affranchi. Voilà encore qui ajoute un nouvel éclairage au sens à donner à l'Église, au sens profond et original à donner à l'Église. Et le terme ecclésia était un terme très familier dans la Grèce antique. On parlait de l'ecclésia très très couramment. Seulement tous ne faisaient pas partie de l'ecclésia, tous pouvaient en faire partie. Mais n'en faisaient partie en réalité que ceux et celles qui étaient appelés à le faire. D'où le terme ekkaleo. Voilà pour l'arrière-plan grec, appelé hors d'eux. Mais cet arrière-plan grec n'est pas encore suffisant pour nous mettre réellement au clair, tout à fait au clair, sur le vrai sens de l'Église. Il faut considérer aussi l'arrière-plan hébreu de ce terme. Vous savez qu'il existe une version grecque de l'Ancienne Alliance. Comment s'appelle-t-elle ? De l'Ancien Testament, pardon. Comment s'appelle-t-elle ? La version des Septante. Pourquoi ce terme Septante ? Vous devriez être plus à même que nous, Français, qui disons 70, hein ? De le savoir, oh, on n'est pas obligé de le savoir, un certain Ptolémée Philadelphe, bien avant Jésus-Christ, à Alexandrie, avait demandé à 72 érudits juifs de traduire l'Ancien Testament en grec. Ceci prit assez de temps. Et pourquoi la version des Septante, qui justement fut produite par ces 72 érudits, parce qu'ils étaient 72. Voilà, la version des Septante. On aurait peut-être dû dire des 72. Mais enfin, on dit la version des Septante. Le terme assemblée, rassemblement, existe en hébreu dans l'Ancien Testament. C'est le mot kahal. Enfin, moi, je ne suis pas. Je n'ai pas fait beaucoup de grec ni d'hébreu, hein. J'en ai fait un tout petit peu quand j'étais étudiant à Nogent. Mais enfin, le mot kahal, tout en revêtant en quelque sorte certaines idées du mot grec « ecclésia » va beaucoup plus loin. Et ce terme « kahal » parlait 72 érudits juifs qui ont traduit l'Ancien Testament en grec. Ce terme a été rendu toutes les fois par « ecclésia ». Il a été rendu par « ecclésia » dans la version des Septante. Et d'ailleurs, nous retrouvons ce même terme « ecclésia » dans la bouche d'Étienne, lorsqu'il parle de l'assemblée du désert avec Moïse en Actes 7, 38. C'est le terme « ecclésia » qui est employé très exactement comme la version des Septante rend le terme « kahal ». Kahal, en hébreu, signifie bien plus que simplement appelé hors d'eux. Ce terme est plus fort dans, j'allais dire, dans l'idée de cet appel qu'il y a dans le terme ecclésia. En hébreu, le terme peut aller jusqu'à être rendu par convoqué. Convoqué ou encore appelé, mais avec autorité. Ceci vient en plus de ce que le mot ecclésia peut signifier. Et en effet, c'est une vraie convocation au désert que Dieu donna à Israël pour une rencontre avec lui, après l'avoir sorti du pays d'Égypte. Alors, dans ce sens, le mot Kahal représente un ensemble de personnes qui ont été enlevées, littéralement, convoquées avec autorité, c'est presque un enlèvement, hein, enlevées, kidnappées, pourrait aller jusque-là, retirées, avec autorité, pour se rassembler. Le terme de rassemblement, l'idée de rassemblement est davantage comprise dans le terme kahal, hébreu, que dans le terme ecclésia, grec. Pourtant, cette idée y est dans le terme ecclésia, mais pas comme dans le terme kahal. On était réellement retiré, appelé, convoqué pour se réunir. Pour se réunir dans le but du rassemblement. Alors ce terme kahal qui a en quelque sorte inspiré l'Église n'est pas un ensemble de personnes qui auraient choisi, comprenez, d'elles-mêmes de se réunir ensemble. Mais il s'agit d'un ensemble de personnes appelées par Dieu à se réunir. Kahal ne signifie pas non plus un ensemble de personnes, disons, qui ont décidé de se réunir pour partager avis, opinions, etc., en débattre. Pas du tout. Le mot Kahal exprime l'idée suivante, un ensemble de personnes appelées avec autorité, pour entendre, pour se réunir, nous l'avons dit, et pour entendre la voix de Dieu. Alors, où lisez-vous tout cela, Alain Chouaquet ? Maintenant, je vais vous donner des versets qui le disent. Lisons par exemple Deutéronome 4, 10. « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, donc au Sinaï, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi » le peuple. Donc, retiré du pays d'Égypte pour s'assembler autour de Dieu. Voilà l'idée de Kahal, en hébreu. Première idée, donc, idée de rassemblement autour de Dieu. Deuxième idée, je veux leur faire entendre mes paroles. Retiré donc du pays d'Égypte, rassemblé au désert pour entendre la voix de Dieu. Toutes ces précisions, évidemment, ne sont pas dans le mot grec « ecclésia » qui, cependant, en dit déjà assez long sur ce que doit être l'Église. Alors, pour être assemblé, rassemblé, pour entendre la voix de Dieu, et puis encore, pourquoi Dieu appelle-t-il ? Exode 7, 16, Exode 7, 26, Exode 8, 17, Exode, etc. Hein, on pourrait ainsi continuer. Exode 9, 14, Exode 10, 3, Exode 12, 31. Qui est-ce qui a des textes là? Alors on va peut-être en lire un puisque j'ai le micro en face. Hein. On va lire Exode 7, 16. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Appelé pour servir. Alors tous les enfants d'Israël, sortis d'Égypte par la main puissante de Dieu, étaient appelés à servir. Vous voyez, moi je me pose une question, et tout à coup, et du même coup, nous entrons comme ça de plein pied dans les applications pratiques de ce terme. Comment se fait-il qu'il y en ait tant dans l'Église qui ne servent pas, qui y viennent simplement, qui entendent, c'est bien, c'est écrit, hein, il faut entendre, qui s'assemblent, c'est bien, il faut s'assembler, il faut se rassembler, mais qui ne servent pas, généralement. Et il y en a peu qui servent dans les églises. Et alors ceux qui servent sont littéralement écrasés par tous les fardeaux de l'église, les charges. Tandis que la grande majorité, souvent, ne veut pas toucher ces fardeaux, ces charges du bout des doigts. Or, si il a été précisé qu'Israël a été appelé pour s'assembler autour de Dieu, pour entendre sa voix, c'est clair. Il a été surtout précisé, dans tous les textes que je viens de citer, qu'Israël a été appelé pour servir. Or, le Seigneur nous appelle pour le servir. Quel service ai-je dans l'Église? Est-ce que je sers à quelque chose? Dans ce rassemblement, je dois me poser cette première question. Si je ne sers pas, il manque énormément à ma vocation de chrétien qui a répondu à cet appel, qui est sorti de l'Égypte spirituelle, de l'esclavage spirituel de ce monde. Une autre raison de l'appel, toujours dans ce terme, caché dans ce terme de Kahal, Exode 5, 2. Exode 5, 2. Je vais le lire aussi. Pharaon répondit, pardon, nous allons lire à partir du verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Une fête. Une fête. Vous l'avez bien entendu. Est-ce que nos rassemblements sont des fêtes en l'honneur de l'Éternel? Il y a dans ce terme Kahal aussi le sens, j'allais dire, d'un appel dans le but de réjouissance autour de Dieu. Est-ce qu'on aime aller à l'assemblée? J'ai entendu non. Un petit non là-bas caché quelque part. Et c'est vrai, souvent on n'aime pas tellement s'y rendre. Hein. On y va parce qu'il faut y aller. Hein. Puis alors si on ne nous voyait pas pendant quelque temps, on pourrait se poser des questions sur notre état spirituel, etc. Alors on y va. Mais on n'y va pas comme ça, dans l'enthousiasme, j'allais dire, de cette vocation que Dieu nous adresse, qu'il nous a adressée, qu'il nous adresse. Nos rassemblements devraient être des fêtes, des moments de fête, où nous devrions nous faire du bien les uns aux autres, où nous devrions nous réjouir autour de Dieu. Vous savez, c'est souvent le contraire. C'est très souvent le contraire. Et ceci explique que l'Église ne soit plus souvent un pôle d'attraction, qu'elle ne fasse pas désirer le Christ à ceux qui ne l'ont pas reçu. Nous vivons au sein d'une génération qui aujourd'hui, plus que jamais dans ce bain matérialiste dans lequel elle trempe, veut faire la fête. Mais la fête avec quoi ? Avec quoi le monde peut-il faire la fête ? Avec un franc qui dévalue, des crises économiques, des chocs pétroliers, hein, des chômages, du chômage, la violence. Vous voulez faire la fête avec ça ? Alors le monde est triste, il est affreusement triste. Laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre, pour qu'il célèbre au désert une fête en l'honneur de l'Éternel. Puissent nos cultes, nos rassemblements être des fêtes. Le monde commencera à s'interroger si réellement nos rassemblements devenaient de vraies fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et d'ailleurs, le salut est une fête. Vivre le salut, c'est vivre la fête. Hein ? Tous les jours, vous m'avez entendu en évangélisation, vous savez très bien que je le dis de toutes mes forces, hein, que le salut du Christ est une vraie fête. D'abord, le sabbat était une fête, hein, le samedi. Eh bien, salut, sabbat, repos, hein, tout ça voudrait signifier que nous vivons une vraie fête. Pas simplement une fête au rassemblement. C'est dans la mesure où je vis la fête. Tous les jours, la fête du Christ. Mais lisons Matthieu 22. Hein, l'histoire du roi qui fit des noces pour son fils. Et qui a envoyé, n'est-ce pas, chercher les convives, lesquels ont décliné l'invitation. Il les invitait à quoi ? À un enterrement ? À une fête, hein ? À une fête, à la fête du salut. Alors, souvenons-nous que nos rassemblements devraient être une fête parce qu'on y lit la parole de Dieu, on l'entend, une fête parce que nous sommes rassemblés autour du Christ, le Sauveur, une fête parce que le Christ nous a sauvés, nous le rappelons, une fête parce que nous sommes en communion avec lui, avec le ciel, nous faisons partie des rachetés, mais voilà autant de choses qu'on entend très souvent, mais qui deviennent des rengaines, alors qu'il faudrait que nous soyons constamment rafraîchis dans ce domaine, renouvelés, bénis pour vivre la fête. Et puis un dernier texte, en Exode 12, 32, « Appelés et rassemblés au dehors », toujours dans le sens du terme Kaal, pour bénir Dieu, pour le bénir. Pour le bénir. Alors, de ce terme Église, à partir de ces deux arrière-plans grecs et hébreux, nous pouvons dire qu'il se dégage quatre idées forces. La première idée, force se dégageant du terme Église, est une idée de vocation. Nous sommes appelés. Deuxième idée, une idée de séparation. Comme Israël a été enlevé par Dieu du pays d'Égypte, il s'est du même coup séparé de ce même pays pour vivre autour de Dieu. Une idée de séparation exprimée dans le terme « ek », hors d'eux. Troisième idée force, idée de rassemblement. Et quatrième idée force, une idée de destination. Pourquoi est-ce que Dieu avait arraché en quelque sorte tout un peuple à son esclavage en Égypte ? Dans quel but ? Quelle était la destination de ce peuple ? Canaan. Canaan. Une idée de destination. Dans le terme Kaal, hein, et dans le terme Église. Eh bien, notre destination, pour ce qui nous concerne, elle aussi est comprise dans le terme ecclésia. Et comme Israël était pour le pays de Canaan, au pays où coule le lait et le miel, notre destination à nous, c'est quoi? Nous avons été appelés à quoi? Eh oui, appelés à partager la gloire de Dieu. C'est écrit la gloire de Christ. De Thessaloniciens 2,14, 1 Thessaloniciens 1,12, etc. 1 Pierre 5,10. Hein, notre destination est éternelle et elle a pour objet la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, le ciel de Dieu. Voilà donc tout ce qui est compris comme idée dans le terme ecclésia. Il y a donc dans ce terme une idée de mouvement. Une idée de mouvement, de dynamisme. Et on se demande souvent pourquoi nos églises, nos assemblées sont un peu mortes. L'église est quelque chose de vivant, appelé hors d'eux, pour s'assembler, pour entendre, pour se réunir. C'est quelque chose de vivant. Pour marcher vers Canaan, l'église contient en elle-même une idée dynamique. Et pourquoi souvent, cet état un peu amorphe, un peu mort de nos églises? Quand Jésus dit « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Dans le texte grec, on peut être étonné que littéralement, Jésus dise « Si deux ou trois sont assemblés vers mon nom. » Il y a une idée de mouvement, mais ça ne signifierait pas grand-chose en français. Encore que, si l'on comprend bien le sens, c'est très riche. Vers mon nom, c'est-à-dire constamment axé vers moi, tendu vers moi, me recherchant. Je dirais même qu'il y a davantage de sens dans le terme grec qui signifie « vers » que vers le sens rendu en français « en », si deux ou trois sont assemblés « en mon nom ». En grec, l'expression est plus forte, elle est plus riche. Mais elle est souvent mal saisie. C'est pourquoi nos traducteurs ont pensé rendre par « en mon nom ». Mais nous devrions constamment être réunis vers le nom du Christ. Hein ? Le Christ nous attirant à lui constamment, dans nos pensées, dans nos cœurs, et ensemble. Il y a là encore une idée, j'allais dire dynamique, dans ce terme « vers mon nom ». L'Église, donc, doit être une affaire dynamique. Non pas morte, mais vivante. L'Église est quelque chose de vivant. Mais pourquoi souvent l'Église est-elle morte? Parce qu'elle représente une institution d'hommes. Alors, on n'a pas compris grand-chose, là. Un édifice de pierre, encore moins. On a encore moins compris. Une organisation, une société, etc. Alors, bien sûr, irrésistiblement, ce genre de choses commence à son début de vivre la mort et s'installe dans la mort. Mais l'Église, ça n'est pas cela. L'Église, c'est un groupe d'hommes, de femmes, sauvés par grâce, appelé par Dieu lui-même hors du monde pour former un corps. Oui, le corps du Christ, l'Église, mais un corps vivant, pas un corps mort. C'est encore le rassemblement fraternel de ceux et celles qui partagent la vie du Christ, qui partagent la même foi, le même Seigneur, la même espérance, etc. Et qui sont unis de manière vivante, les uns aux autres, par le Saint-Esprit. Et la Trinité a dans l'Église, la Trinité, j'allais dire au niveau des trois personnes qui la forment, a un rôle magnifique dans l'Église. Elle joue un rôle magnifique. Dieu appelle, hein, ek kaleo. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, 44. Alors c'est Dieu qui appelle. Hein. Alors quand Dieu appelle, Christ, lui, sauve ceux et celles que Dieu appelle. Jean 6, 39, 40. Et que fait le Saint-Esprit de ceux qui ont été appelés par Dieu et sauvés par Christ ? Il les unit, il les met dans un corps. Hein ? 1 Corinthiens 12, 15, nous avons tous été baptisés, baptisés dans le Saint-Esprit, bien sûr, hein, pour former un seul corps. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous ce corps vivant. Or l'Esprit de Dieu est quelque chose de vivant. Il habite l'Église, il coule dans l'Église. Il unit les chrétiens, il les met ensemble vers le Christ, autour du Christ, en Christ. Mais pour mieux saisir ce que signifie encore l'Église, si vous le permettez, nous allons voir quelques-uns de ces titres donnés dans le Nouveau Testament. Oui, l'Église a certains titres dans le Nouveau Testament, certains attributs, certaines qualifications, et grâce à ces attributs, ces titres, nous allons essayer de dégager des idées, encore des idées essentielles. Jésus, en parlant de l'Église, parle d'un troupeau. Je suis le bon berger. Hein. Jean 10, 16, par exemple, d'un troupeau. Mais il précise que ce troupeau est fait de brebis. Un troupeau, c'est vivant. Hein. Vous avez vu des troupeaux déjà, de moutons ? C'est vivant, dans le milieu de la France, on en a. Hein. Ça bouge constamment, c'est en perpétuel mouvement. À partir d'un même troupeau, peuvent ensuite se constituer d'autres troupeaux, issus d'un premier troupeau. C'est quelque chose de vivant, le troupeau. Ça bouge constamment. Et j'aime bien que le Seigneur ait qualifié son enfant de brebis, plutôt que de hérisson. Hein ? Nous ne sommes pas un troupeau d'hérissons, hein, à nous piquer les uns les autres, mais un troupeau de brebis. Vous savez, quand les brebis suivent le berger, elles ont entre elles un contact de laine. C'est doux, hein ? Puisse le Seigneur faire que nous ayons entre nous un contact de laine. Ah, il arrive que souvent deux brebis se regardent l'une en face, hein, plutôt que se regardent en face l'une l'autre, pour se donner des coups de tête. Alors le berger arrive vite pour mettre la paix entre ses brebis, avant que il y en ait une qui soit blessée. Mais quand les brebis avancent dans les verts pâturages, etc., quand elles suivent le berger, elles ont entre elles un contact doux, un contact de laine. Souvenons-nous de cette image afin que nous ayons entre nous ce même contact de laine. Un autre titre donné à l'Église, est celui de chant de Dieu. Vous êtes le chant de Dieu, 1 Corinthiens 3, 9. Littéralement, au niveau du texte grec, un chant cultivé en grec, hein, non pas un chant laissé comme ça en broussaille, hein, un chant cultivé. Or, vous savez qu'un chant est une affaire en perpétuel travail au plan biologique. C'est quelque chose de vivant, un chant. C'est pas quelque chose de mort. Et c'est surtout vivant quand c'est cultivé. Hein? Or, le mot grec ici, c'est le terme chant cultivé. L'Église n'est pas un désert. Un désert n'est pas cultivé. Et puis, un désert, souvent, c'est mort, en tout cas en surface. Parce qu'il y a là du sable, et le sable ne produit pas grand-chose. L'Église est donc un champ cultivé. Et pour prolonger cette belle idée du champ cultivé, cultivé par Dieu lui-même, au travers de ses serviteurs, l'apôtre précise que ce champ est cultivé par les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas ? Qui ont reçu de Dieu les dons nécessaires à l'exercice de ministère afin de cultiver ce champ qu'est l'Église de la part de Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, cette image est reprise, plutôt elle a été annoncée avant, puisque le Cantique des Cantiques est dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, au chapitre 4, des versets 12 à 16, un jardin de Dieu, un jardin fermé, où jaillissent des sources formidables. Vous vous souvenez de cette image merveilleuse? Eh bien, ce doit être là comme pour nous, hein, qui lisons l'Ancienne Alliance, une image prophétique de l'Ancien Testament annonçant l'Église, ce jardin fermé de Dieu, où Dieu trouve son plaisir, où le berger, hein, trouve son plaisir. Un jardin duquel il attend des fruits pour sa joie, hein, dans lequel aussi il plante. Un jardin qu'il arrose. Un jardin qu'il voudrait aussi plein de senteurs. La prière de ses enfants, l'action de grâce, l'adoration. L'Église est unique au monde. Il ne devrait pas exister d'organisation, de société, que sais-je encore, de club comparable à l'Église. D'abord, l'Église n'est pas un club, n'est pas une société, n'est pas une organisation. Hein? Et il devrait se vivre dans l'Église ce qui ne se vit nulle part ailleurs. Et en entrant dans l'Église, les païens devraient tomber sur leurs genoux tellement ils verraient de choses absolument impensables dans le monde. J'aime toujours dire ceci parce que l'Église, souvent, est tout autre chose et aujourd'hui, elle rebute au lieu d'attirer. Elle ne rayonne plus de la gloire du Christ. Elle n'est plus ce jardin fermé, cultivé de Dieu. Ce jardin embaumé où Dieu trouve tout son plaisir, ça n'est plus cela, souvent. Hein? Mais quelle tristesse! Pourtant, il est écrit que Christ a aimé l'Église. Hein? Et il l'aime encore! Bien sûr qu'il l'aime énormément. Vous savez que l'Église est le trésor du Christ sur cette terre. En tant qu'assemblée, nous sommes le trésor du Christ sur cette terre. Hein? Il l'aime tellement qu'il s'est donné pour elle. Et il se donne encore aujourd'hui pour elle, à fond. Pourquoi est-ce que l'Église ne deviendrait-elle pas enfin ce jardin de Dieu, hein? Vous savez, c'est bon un jardin, c'est beau un jardin cultivé. Hein? Dans le sens du terme employé par l'apôtre en 1 Corinthiens 3, 9.